traverse la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plume et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce jeudi, nous avons avec nous dans ce studio de la rue de la Salie, ce soir, trois invités que nous allons saluer parce qu'ils viennent nous parler d'un événement qui aura lieu jeudi prochain, donc le jeudi 22 février. C'est pas un jeudi.
Vendredi.
Ah pardon, j'ai toujours un problème avec le calendrier, donc vendredi 22 février, à la Maison de l'Occitanie, hein, l'Oustal d'Occitanie, bien connu de nos auditeurs, et qui va reprendre le festival 50 poèmes pour la neige qu'avait initié Patrick Zemlianois. Et cette fois-ci, cette année 2019, c'est déjà le 7e festival. Alors, dans ce studio, nous avons Patrick Zemlianois, qui est le secrétaire de l'association des Livres et des Idées, qui organise ce festival, dont il va nous parler dans un instant. Nous avons également Modesta Suarez. Bonsoir Modesta Suarez. Bonsoir. Professeur, enseignante, chercheuse à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, qui évoquera l'œuvre du poète phare de ce festival, qui est...
Nicanor Parra.
Voilà. Donc un poète chilien, qui a eu une longévité de création, puisque il est mort à 103 ans. Et puis, Claude Barrère, donc poète et plasticien. Claude Barrère, qui est connu de nos auditeurs, puisque nous avons eu le plaisir de faire pas mal d'émissions avec lui, sur son œuvre de poète, mais qui expose actuellement à Toulouse, en ce moment, à la Galerie 21, Place du Salin, jusqu'à la fin février, une exposition qui s'appelle « Graphes et géométries », dont il nous parlera tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, avant de commencer à parler de ce 7e festival international de poésie 50 poèmes pour la neige et de Nicanor Parra, je voudrais faire quelques présentations de livres de poésie, en particulier d'un poète que connaît bien notre ami Claude Barrère. Il s'agit de Marcel Migosi. Marcel Migosi, nous avons réalisé pas mal d'émissions sur lui, Il vit dans la région de Nîmes, de Nice, pardon, il vit dans la région de Nice, et il fait paraître aux éditions Gros Texte, Quelque part de voyage. Alors, c'est un petit livre qui est excessivement agréable. Il coûte 7 euros. Il contient dans une enveloppe. Il est extraordinairement bien mis en page avec des dessins de Agnès Madère. Alors là, il s'agit d'une expérience créative assez originale de Marcel Mingozzi, puisque ce sont ses voyages. Et là, il a rassemblé dans ses petits textes ces différents voyages. Donc on va parler de Venise, il va parler des pays qu'il a fréquentés, qu'il a traversés. Par exemple, l'Irlande. Irlande, un extrait. Île aigrisée par le vent, bonjour aux vieux, c'est du pareil, au même temps, vieillie par les pluies et les maux, déjà traitée en souvenir, avant cet assombrissement du temps, vieux, plutôt que bonjour. Tu écris sur tes genoux, très sautant, sur la page d'un carnet noir, dans un quart de touriste inconnu, où va-t-on ? Sous un ciel ciment cru, ton écriture même en tremble, les mots semblent douter, poème, es-tu bien assuré de pouvoir être là ? Sur cette lande, naine fleur, herbe sans folie dans la brume, y avait-il un roi blessé? Pauvre lumière en souvenir d'une passion, perte charnelle que l'amour même dans ses fleurs dédaigne. Voilà donc une idée du ton du recueil, tout le recueil est comme ça. Nous aurons le plaisir au mois de mars d'inviter Marcel Mingozzi pour nous parler de l'ensemble de cette œuvre, mais je tenais ce soir à le signaler, de manière à ce que les auditeurs puissent se procurer ce livre, Quelque part de voyage, aux éditions Gros Texte. Et puis très vite, les éditions Ad Solem, qui publient énormément de livres de poésie, poésie vraiment de grande qualité, et qui publient Jean Maison à Hédin. C'est un nouveau recueil de Jean Maison qui remonte l'alphabet comme on remonte le temps, jusqu'à la première lettre, jusqu'au premier lieu d'où toute histoire procède, à Hédin. Une lettre, un lieu, à Hédin, se présente comme un poème luminal, une parole du seuil, proche de l'origine, pourtant déjà tournée vers l'histoire. Quelle histoire ? Celle de l'homme et de la femme, de l'amour, qui donne sa raison d'être à tout. Voilà, donc Jean Maison, à Hédin, poésie aux éditions Ad Solem. J'aurai le plaisir de revenir sur ce livre. Et puis, une amie de Claude Barrère, il s'agit de Anne-Marie Bernad. Anne-Marie Bernad, qui publie dans la collection Poète des cinq continents de l'Harmattan, qui publie L'encre des mots, l'encre avec un A, l'encre des bateaux. Laissons-nous entraîner par ses mémoires intérieures, dit un poète que nous connaissons bien, qui est un poète qui vit dans le Lot, Gilles Lade. Gilles Lade dit, laissons-nous entraîner par ses mémoires intérieures, fruit de la patience, de l'autre vie, de l'invisible et d'une dévotion à l'absolu. L'esprit qui est à l'œuvre ici, c'est celui d'un pacte initial à préserver, attaché à traduire les énigmes, les évidences, de la condition humaine, un esprit de vérité qui ne saurait déboucher sur le dernier mot ou sur la transparence devant l'insondable. Alors Anne-Marie Bernad, elle est née à Decazeville et elle réside à Rodez. Elle est mariée, mère de deux enfants, elle est membre de la Société des Lettres de l'Aveyron et elle a même été trésorière des écrivains du Rouergue, qui est une association qui avait été très active. Et elle a publié de nombreux recueils et participe à de multiples revues de poésie. Donc elle a eu en 1973 le prix Voronka. Voronka, qui avait eu Catalot aussi, je crois. Georges Catalot, de mémoire. Hein, dans ses...
Claude Barrère.
Et Claude Barrère, bien sûr, avec, je ne me souviens plus du titre. Rappelle-moi le titre.
Vue improbable.
Vue probable.
Vue probable.
Vue probable. Voilà.
Probable.
Vue probable. Voilà. L'encre des mots, alors nous aurons le plaisir également, dès qu'elle pourra faire le voyage, actuellement elle n'était pas disponible, de faire une émission sur l'ensemble donc de l'activité poétique de Anne-Marie Bernade. Je voulais simplement signaler ce livre qui coûte 17,50 €. Voilà, j'allais terminer le plus rapidement possible avec ces annonces, étant précisé bien sûr que je reviendrai sur ces livres au cours des prochaines émissions. Alors, Patrick Zemlianois va nous présenter maintenant ce festival assez particulier de 50 poèmes pour la neige qui va se tenir dans notre maison de l'Occitanie, hein, 11 rue Malcousinat.
Oui, à deux pas du métro Esquirol.
Voilà, il faut prendre le métro Esquirol, voilà. On prend la rue
Saint-Rome. Deschamps, je crois. Je crois qu'elle s'appelle rue d'Échange.
Ah, rue d'Échange.
Mais c'est la même.
Oui, c'est le même. C'est dans le prolongement.
C'est dans le prolongement.
C'est dans le prolongement. Et en venant de la place Esquirol, c'est le petit.
C'est la première à gauche.
Que l'on trouve à gauche, ouais, ouais. Le petit carré-rote.
Et on ne peut pas le louper, cet hôtel pastellier du 15e siècle, quand même, qui accepte
nous. Vous entrez dans cet hôtel particulier, c'est tout à fait au bout, la salle Antonin Perbosque.
Perbosque, tout à fait.
Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce festival et quelle est son origine?
Alors, ce festival 50 poèmes pour la neige, il a été créé en fait en 2012 par un ami qui est croate à Zagreb, un journaliste, un peu artiste, qui était amoureux de sa ville et qui souhaite toujours introduire du contenu artistique dans l'espace public. En fait, c'était venu aussi de la candidature de Zagreb comme capitale européenne de la culture. Et donc, c'était un peu. Il avait eu cette idée de créer ce festival pour fêter la neige, la poésie, en réunissant dans un esprit complètement désintéressé quelques amis poètes comme lui pour lire quelques textes. Et puis, c'était aussi une belle occasion pour découvrir chaque année un grand poète auquel le festival est dédié. Donc ça, c'était l'idée de départ. Cette idée a fait un peu florès depuis 2012. Elle est allée plus loin que Zagreb, elle a quitté les frontières de la Croatie. Et cette année, c'est dans 15 villes et 9 pays européens que ça a lieu ou que ça aura lieu, avec cette même idée de départ qu'on essaye de conserver. Alors, je ne veux pas les citer toutes, hein, mais Amsterdam, Stockholm... des villes au nom plus difficile à prononcer, Karlovac, donc toujours Zagreb. Et puis, donc, le vendredi 22 février, à 20h30, à l'Hostal d'Occitanie, Toulouse. On s'inscrira aux côtés de ces grandes villes. Donc, quelque part, et avec un peu de présomption, on peut dire qu'on contribue à créer une Europe de la poésie. Voilà, en tout cas, c'est un terme qui me plaît bien, cette idée d'Europe de la poésie.
Alors, c'est d'autant plus pertinent que Toulouse veut actuellement attacher son nom, non plus à l'aéronautique, non pas seulement à l'aéronautique, aux universités, etc., mais à la poésie, hein, puisque c'est, par exemple, l'Académie des Jeux Floraux, c'est la plus vieille académie d'Europe, hein, qui est née en 1323. Et donc, l'idée est très forte de l'ensemble des acteurs culturels et des acteurs politiques, c'est de faire de Toulouse une capitale de la poésie et une ville connue pour son activité poétique. Voilà, alors c'est en marche.
Donc on est dans l'actualité, on est dans le buzz.
L'événement est totalement pertinent pour cela.
D'accord.
Et nous nous en réjouissons.
Voilà. Alors, le principe de ce festival de poésie, finalement, il est celui que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est une veillée, en fait. Hein, c'est une veillée au coin du feu, puisqu'en plus, on aura cette fameuse cheminée de l'hôtel de Boisson-Chevéry, là, qui est la maison de l'Occitanie, qui est un hôtel magnifique. Donc, c'est aussi l'occasion de découvrir ce lieu qui n'est pas forcément très connu de tous les Toulousains. Donc, on se réunit dans cette salle. Et c'est la neige, finalement, c'est l'élément poétique qui réunit les poètes et puis le public, en fait, qui vient participer à cette veillée, entre guillemets. Alors, cette neige sera malheureusement ou heureusement plus poétique que réelle, parce que j'ai beau guetter la météo tous les jours, je pense qu'il n'y a pas le moindre petit flocon qui est annoncé sur la ville rose ce soir-là. Bon, néanmoins, on pourra rêver d'avoir une poésie qui tombe en virevoltant et qui rallume des souvenirs d'enfance. Poésie dont Pasternak disait qu'il n'est de peine au monde que la neige ne puisse apaiser. Donc je trouve cette formule tout à fait bienvenue pour ce festival.
Il savait de quoi il parlait aussi.
Oui, Pasternak, quand on a lu un peu, moi j'ai lu récemment le docteur Jivago avec des descriptions de paysages, c'était pas une petite neige qui virevolte, non, c'est grand, des grands espaces, tout blanc. Voilà, donc l'idée aussi de ce festival, c'est qu'il est ouvert au public, c'est-à-dire que l'entrée est libre et ouverte à tous et gratuite. Et l'idée, c'est aussi que le public peut venir lire des textes qui lui tiennent à cœur. Et puis des textes qu'on remettra aussi à l'entrée du festival aux gens qui vont participer pour leur suggérer des lectures, soit sur le moment, devant, avec tout le monde, soit ultérieurement. Je voulais aussi signaler qu'il y aurait du public, on l'espère, nombreux, et quelques poètes qui viendront aussi célébrer cette neige et, en lisant leurs œuvres ou d'autres œuvres. Et j'ai je ne pense pas en avoir oublié. Si j'en ai oublié, ils m'excuseront. J'ai Jean-Louis Simon, donc, qui est un poète lotois, qui viendra, qui doit venir pour cette soirée. Francis Pornon, qui a tout spécialement écrit pour nous une balade pour la neige, donc, qui viendra lire ce soir-là. Claude Barrère, qui me fait l'amitié de venir y participer. André Borde, qui n'est pas forcément très connu parmi les mais qui m'a aussi indiqué sa présence. Jean-Michel Tartère, que l'émission Les Poètes a déjà reçu ici. Franck Bardou, poète occitan, donc j'espère oui, aussi
qu'il... Spécialiste de René Nelly.
Voilà, spécialiste de Nelly. Et puis donc un autre poète qui fait l'amitié de nous accompagner dans ce festival. Il s'agit de Christian Saint-Paul, que je remercie de son invitation pour aujourd'hui et dont j'espère aussi la venue pour ce 22 février. Donc, la neige, j'ai dit, donc, qui réunit tout ce monde, et aussi donc, un hommage qu'on cherche à rendre cette année à ce Chilien, Nicanor Parra, décédé à 103 ans. Donc, grande figure de la contre-culture, mais je vais laisser peut-être Modesta Suarez, qui connaît beaucoup mieux que moi la vie et l'œuvre de Nicanor Parra, pour en parler un peu plus.
Alors, nous allons écouter cette vie, cette longue vie, qui est d'un poète assez surprenant, puisque c'est un poète chilien, malheureusement pas trop connu.
Alors, extrêmement connu dans la partie hispanophone la poésie mondiale, et qui n'a pas eu la chance d'avoir véritablement trouvé de traducteur pour le français. Et donc, en fait, on va s'appuyer, et ce soir et le 22 février, sur une très très belle anthologie, et lourde anthologie, éditée par Le Seuil. Et c'est important d'avoir maintenant cet outil-là qui permet justement... De faire connaître beaucoup mieux Nicanor Parra, qui est un des très très grands poètes chiliens et très très grands poètes latino-américains. Et pas uniquement de par sa longévité, si ce n'est que ça rassure, la poésie permet de vieillir très bien. Nicanor Parra, en fait, il faudrait le resituer dans une saga familiale, parce que quand on parle de Parra au Chili, eh bien, il y a toute une série de prénoms qui se rajoutent à ce Nicanor. D'abord parce que les parents de Nicanor, mais aussi de Violeta Parra, qui était la sœur de Nicanor Parra, leurs parents faisaient partie, avec des métiers humbles, populaires, faisaient partie de ces artisans artistes et qui diffusaient eux-mêmes la culture populaire au Chili. Nicanor et d'une certaine manière le seul à avoir fait des études qui sortaient des études artistiques, puisqu'il a fait des études scientifiques, il était mathématicien, physicien, mais tout le reste de la famille est quand même extraordinairement reconnu. Alors il y avait Violeta, bien évidemment, il y a les enfants de Violeta Parra, dont Ángel Parra, qui est venu de nombreuses fois à Toulouse comme chanteur et comme poète. Et Ángel Parra, qui est décédé avant même que ne décède son oncle, hein, il a eu d'énormes soucis de santé et est décédé en 2017, si je me souviens bien, et Nicanor étant décédé en 2018. Ángel Parra a une sœur, Isabel Parra, qui est aussi chanteuse. Et puis, il y a maintenant les enfants et les petits-enfants, hein, donc les enfants de Violetta, les petits-enfants de Violetta. C'est-à-dire, on est passé petit à petit sur le XXe siècle, en arrivant au XXIe siècle, ben de la cueca, c'est-à-dire cette culture traditionnelle, ce chant et cette danse traditionnelle chilienne. On est arrivé au rock, puisque maintenant ce sont de jeunes artistes rockeurs, hein, que ces petits-enfants, arrière petits-enfants dans la famille Parra. Voilà. Donc c'est véritablement une saga familiale.
Une tradition artistique.
Alors, et une tradition artistique qui joue sur un versant extrêmement populaire de la création chilienne. Violetta était ethnomusicologue, hein, puisqu'elle recueillait une partie de la tradition chilienne, sa tradition chilienne, et qu'elle a eu la possibilité de la diffuser ensuite en Europe à la fin au milieu des années 60, fin des années 60, avant de se suicider. Ce passage, le fait de passer cette culture traditionnelle, cette culture populaire, finalement a été repris par les autres membres de la famille, et même Nicanor. On en parlait tout à l'heure hors antenne, mais Nicanor, qui n'est pas dans des études artistiques au départ, va rejoindre le clan finalement dans une poésie qui est traversée du ton de la conversation, qui est traversée du ton de la vie quotidienne, et donc retrouvant d'une certaine manière, s'éloignant, pour le dire autrement, s'éloignant de cette poésie savante qui a fait parfois le bonheur d'autres grands écrivains, poètes latino-américains.
Paradoxalement, je dirais que dans la culture populaire, Violetta est plus connue que...
Oui.
Oui,
elle est plus connue. Je pense qu'elle a œuvré bien davantage pour être reconnue, puisqu'elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup diffusé. Elle était non seulement du côté du recueil de textes, mais elle était sur la remise en forme de ces textes, de ces pratiques, qui étaient aussi des pratiques textiles, qui étaient aussi des pratiques musicales. Enfin, Nicanor, j'allais dire, s'est arrêté d'une certaine manière au texte écrit, même s'il y a ce que l'on a appelé pour Nicanor Parra les artefactos, c'est-à-dire ces objets peu particuliers dont on pourra parler plus tard.
On va parler maintenant tout de suite.
Ceux qui viendront au festival auront la chance de découvrir, puisqu'on compte les présenter.
Oui, absolument. Et c'est quand même une originalité dont ce poète a quand même une originalité assez importante. Puisque il va à la fois perpétuer quand même cette tradition, le sang très chilien, et en même temps être dans une modernité de rupture aussi, hein, puisqu'il va s'intituler l'antipoète.
Voilà, disons
qu'il va faire des antipoèmes.
Son premier geste, alors pas tout à fait le premier, parce que ce sera en fait son deuxième volume en 1954, mais ce véritable volume découvert et mis en valeur par la critique et par les études et par les lecteurs également, s'est intitulé Les Antipoèmes, qui date de 1954 et qui enfin, celui qui est contre, c'est Neruda, hein, c'est Pablo Neruda en face, qui vient de publier cette gigantesque somme qu'est El Canto General, le chant général, en 1950. Et d'une certaine manière, Parra va s'inscrire contre ce grand poète, avec toutes les difficultés qu'il y a à s'inscrire contre. Surtout contre une montagne, une cordillère comme Neruda.
Et il y a ici un poète qui s'appelait Félix Marcel Castan, qui a compté dans les annales de la poésie occitane et même du mouvement occitan, et qui disait toujours, c'était un de ses leitmotifs, un poète doit toujours écrire contre. Voilà. Et donc en pensant à Parra, je me suis dit, voilà, il a rejoint cette idée que l'on ne pouvait écrire que contre. Hein. C'est-à-dire que,
de fait, Neruda ouais, s'inscrit lui aussi à un moment contre d'autres poètes. Oui. Voilà.
Oui. On va peut-être. Alors, il faut rappeler peut-être le titre de l'anthologie.
Alors, hein, le titre de l'anthologie, voilà, ça s'appelle Poèmes et antipoèmes. Hein, le titre ouais, est tout simple. Et le sous-titre, Anthologie 1937-2014. C'est une édition bilingue, ça aussi c'est à souligner, parce que c'est intéressant d'avoir les deux versions lorsqu'on lit de la poésie avec une langue qui nous est proche. Alors, pour moi, elle est un peu plus que proche, mais disons qu'il nous est proche comme l'espagnol peut l'être à Toulouse, hein, avec une préface de Philippe Lançon. Voilà, et c'est au seuil.
Merci. On va écouter peut-être cette voix de...
Alors, on va l'écouter en bilingue, finalement.
Peut-être en espagnol.
En espagnol, en premier. D'accord. Donc, le poème que nous avons choisi, finalement, qui est aussi une tentative de définition de l'antipoète et de l'antipoésie, cette tentative de définition ne s'est pas faite en 54 dans l'ouvrage qui porte ce titre d'antipoème, mais dans un ouvrage postérieur de 60, écrit entre 64 et 67, qui s'appelle « Les chansons russes ». Et le texte que nous allons lire s'intitule « Test ». L'avantage, c'est que le mot est à l'identique dans les deux langues. Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores? Dios lo tenga en su santo reino. ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga? ¿Un ataúd a gas de parafina? ¿Una capilla ardiente sin difunto? Marque con una cruz la definición que considere correcta.
Test. ¿Qué es un poeta? Un négociant en urne et en cercueil, un prêtre qui ne croit en rien, un général qui doute de lui-même, un vagabond qui se moque de tout, vieillesse et mort comprise, un interlocuteur de mauvais caractère, un danseur au bord de l'abîme, un narcisse qui aime tout le monde, un plaisantin sanglant délibérément misérable. Un poète qui dort sur une chaise, un alchimiste des temps modernes, un révolutionnaire de poche, un petit bourgeois, un charlatan, un dieu, un innocent, un villageois de Santiago du Chili. Soulignez la phrase qui vous semble correcte. Qu'est-ce que l'antipoésie ? Une tempête dans une tasse de thé, une tache de neige sur un rocher, un plateau plein d'excréments humains comme le croit le père Salvatierra, un miroir qui dit la vérité, une gifle au visage du président de la Société des écrivains, que Dieu l'ait en son saint royaume. Un avertissement aux jeunes poètes, un cercueil à réaction, un cercueil à force centrifuge, un cercueil à gaz de paraffine, une chapelle ardente, sans défaut, marquée d'une croix, la définition qui vous semble correcte.
Alors on voit avec ce texte qu'il y a aussi une volonté de retourner un langage qui est le langage du quotidien aussi. Est-ce que dans cette volonté de choisir un langage qui soit un langage très, je dirais, ordinaire, entre guillemets, mais avec des rapprochements tels que ce côté ordinaire, en définitive, prend une force poétique quand même très, très importante.
Oui, là, je crois qu'il est important de remettre justement Nicanor Parra dans une tradition qu'il contribue à créer, qui ne vient pas directement de la langue espagnole et de la poésie espagnole de l'époque, oui. Mais qui arrive par les États-Unis et par Walt Whitman. Et en fait, si on regarde dans la généalogie de ces poètes, on s'aperçoit qu'il y a Whitman n'est vraiment pas loin
Ezra
du tout.
Poole,
Ezra Pound et des gens comme William Blake aussi, qui était un peu une espèce de figure tutélaire de cette poésie-là. Et puis, dans la même époque que ces poèmes, c'est-à-dire les années 50-60, c'est la génération, c'est la Beat Generation. Voilà. Et la Beat Generation est exactement à la fois dans cette espèce d'accumulation d'images, hein, de flux comme ça, assez ininterrompu et en fait très déroutant pour le lecteur, pour autant ou alors au contraire laissant le lecteur complètement divaguer à partir des images qui lui sont proposées à la lecture et à l'écoute. Parce que c'est effectivement une poésie que l'on aime, qui sonne à l'oreille.
Oui, on retrouve un petit peu le ton de Ginsberg et Burroughs,
oui,
etc.
Oui, dans, oui. Alors, en sachant en plus que la connexion n'est pas du tout fortuite, puisque la première traduction des antipoèmes aux États-Unis s'est faite par Ginsberg. Ginsberg traduit Parra et le publie dans les éditions City Light, qui sont quand même la grande maison d'édition de toute la Beat Generation. Donc, il y a le contact, la reconnaissance est mutuelle. Hein, et Ginsberg sera reçu ensuite au Chili, fin des années. On est à la fin des années 50, début des années 60.
On mettrait une dizaine d'années de plus, minimum, ici en France, avant d'avoir cette influence-là dans la poésie. Hein.
Ce faisant, c'est très travaillé.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça,
oui, un aspect que j'ai découvert aussi en discutant hors antenne avec.
Je crois que pour arriver justement à avoir cette impression de facilité de langage de quotidien avec cette force poétique,
avec un souffle,
un souffle poétique indéniable, il y a effectivement un grand travail sur la langue. Et d'abord, il faut être un poète authentique, hein, ressentir de façon authentique les choses, et puis avoir ce travail sur la langue qui fait que on est poète. Quoi.
Et le rythme aussi.
Oui. Le rythme, oui, bien sûr. C'est le souffle.
On avait discuté là, ce rythme des vers où on retrouve. Je n'ai plus les noms en tête parce que je ne suis pas spécialiste, mais tu m'avais expliqué.
En tout cas, ces enchaînements d'images, effectivement, et ces rythmes. Ouais. Alors, après, que l'on retrouve à l'intérieur de toute la poésie, c'est-à-dire, après, on est sur des rythmes ternaires, on est sur des choses très, très anaphoriques, où on a l'impression qu'on dévale un escalier en même temps qu'on dévale le poème. Enfin, voilà, on a ces impressions-là qui sont intéressantes et qui sont renforcées, j'allais dire, par un style et une vision du monde qui est très, très... Alors, qui peut être au minimum ironique, mais très sarcastique. Hein. On est vers quelque chose... On est très sarcastique, voilà, hein, quelque chose qui est acide par rapport à l'époque dans laquelle se construisent ces poèmes-là. Il y a une critique assez féroce du petit bourgeois et même de l'intellectuel reconnu, de l'intellectuel... assis sinon racis, etc. Enfin, on a vraiment toute une série de jeux de mots qui déglingue l'ornementation qui peut y avoir dans une certaine poésie. C'est peut-être maintenant qu'il faudrait lire l'avertissement au lecteur, parce que justement cet avertissement au lecteur arrive comme une espèce de avertissement au lecteur. On pense immédiatement à Baudelaire, et vous allez voir que Baudelaire est une espèce de monde tellement éloigné, mais sur lequel on rebondit puisqu'on est sur l'antipoésie. Je le lis en français.
En France,
voilà. Donc avertissement au lecteur, et là on est sur la poésie des années 50. Avertissement au lecteur. L'auteur ne répond pas des désagréments que pourraient occasionner ses écrits. À son grand regret, le lecteur devra toujours se tenir pour satisfait. Sabellius, qui en plus de théologien fut humoriste consommé, après avoir réduit en poussière le dogme de la très sainte Trinité, il a répondu de son hérésie peut-être ? Et si finalement il en a répondu, comment il l'a fait ? De quelle manière tiré par les cheveux en se basant sur quel tas de contradictions ? Selon les docteurs de la loi, on ne devrait pas publier ce livre. Le mot « arc-en-ciel » n'y figure nulle part. Le mot « douleur » encore moins. Le mot « torquatus ». Des tables et des chaises, ça oui, à gogo, cercueil, article de bureau. Et cela me remplit d'orgueil, car selon ma façon de voir, le ciel est en train de tomber en ruine. Les mortels qui auraient lu le Tractatus de Wittgenstein peuvent remercier le ciel, car c'est une œuvre difficile à trouver. Mais le cercle de Vienne s'est dissous voilà des années. Ses membres se sont dispersés sans laisser de traces. Et moi, j'ai décidé de déclarer la guerre aux Cavalieri di la Luna. Ma poésie peut parfaitement ne mener nulle part. Les rires de ce livre sont faux, argumenteront mes détracteurs. Ces larmes artificielles. Au lieu de soupirer, on bâille dans ces pages. Ça gigote comme un nourrisson. L'auteur se fait comprendre en éternuant. Eh bien d'accord, je vous invite à brûler vos vaisseaux, comme les Phéniciens, j'entends me faire mon alphabet à moi. À quoi bon déranger le public, se demanderont mes amis lecteurs. Si l'auteur lui-même est le premier à discréditer ses écrits, que peut-on en attendre ? Attention, je ne discrédite rien. Ou plus exactement, j'exalte mon point de vue, je me vante de mes limites, je porte au nu mes créations. Les oiseaux d'Aristophane enterraient dans leur propre tête les cadavres de leurs parents. Chaque oiseau était un vrai cimetière volant. Selon ma façon de voir, l'heure est venue de moderniser cette cérémonie et j'enterre mes plumes dans la tête de ces messieurs les lecteurs. Mais bien sur une version alors, qui joue sans arrêt. Hein. On est dans un aller-retour constant avec la tradition. C'est-à-dire, en fait, un antipoète ne cessera jamais d'être un poète. C'est surtout ça qui est dit. Hein. Et d'une certaine manière, c'est une réaffirmation constante de la poésie, fût-ce par d'autres moyens.
Et 1973, il est au Chili.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il ne se passe rien pour lui. Il se passe pour des gens de sa famille. Mais lui va rester au Chili. Hein. On se souvient que les enfants de Violetta, par exemple, ont fui le Chili à ce moment-là, se sont réfugiés à Paris hein, et se sont exilés comme des milliers d'autres Chiliens. Il va rester au Chili. Alors, il n'est pas au centre, hein, dans les préoccupations chiliennes de l'époque. La poésie reste à la marge, et même la poésie de Neruda, un poète comme Neruda, comme d'autres poètes, comme Enrique Lin. Alors, Enrique Lin sortira, rentrera. Hein. On a des poètes qui n'ont pas tous la même attitude par rapport à la dictature. Et le fait de s'écarter de la vie, du centre de la vie politique, va lui permettre de rester au Chili. Il va cependant continuer à dire les choses, c'est-à-dire que est-ce à croire que la dictature ne comprend pas la métaphore poétique et donc n'arrive pas à comprendre et à saisir les sous-entendus de la métaphore poétique, ce qui est tout à fait possible. Henri Quéline est un parfait exemple. En tout cas, ce qu'il remet en cause ne va pas être compris de cette façon-là et ne va pas l'amener à devoir partir du Chili, même si sans doute il y a eu un passage sous silence d'une partie de ses écrits d'alors.
Parce que moi, j'étais étonné de voir qu'il reste hein, dans cette... Et puis, en définitive, l'explication que vous donnez me satisfait, c'est que les militaires sont trop idiots pour arriver à comprendre véritablement quand même ce que le message du poète.
En tout cas, la censure ne le repère pas.
Oui, oui.
Alors que les textes peuvent être lus dans une optique politique. Mais d'autres partiront, hein, d'autres seront torturés. On a reçu il y a peu de temps Zurita, par exemple, ici à Toulouse. Zurita sera obligé de partir, sera même évacué, et de façon sera sauvé par l'étranger, hein, d'une certaine manière.
Dans les artefacts, il était quand même assez...
C'est dur. Oui, et assez violent.
C'est étrange quand même.
C'est vrai qu'il est passé en dessous des radars.
Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'il est physicien, par ailleurs, qu'il a aussi cette étiquette de scientifique, hein, qui est souvent dissociée de l'étiquette du poète?
C'est vrai.
Est-ce que ça peut jouer, ça?
Je pense que ça peut jouer, effectivement, et qu'on l'ait davantage perçu comme le chercheur, davantage que comme le poète. Ceci dit, au moment de la dictature, il est déjà un poète connu.
Il en va des agitateurs comme des Auvergnats. Quand il y en a quelques-uns, ça va, c'est quand il y en a trop.
Bien, on va écouter.
C'est quand même une violence symbolique. Hein.
Oui, oui, mais c'est quand même étonnant qu'il ait pu passer cette période comme il l'a passée.
Mais est-ce qu'il ne l'a pas passé un peu en ermite aussi, cette période?
C'est une période où il continue à écrire, alors sans doute pas à publier de la même façon parce que la publication est plus compliquée. Il continue son activité de poète, mais sans avoir... l'ouverture.
Il fait des allers-retours avec les États-Unis.
Alors, il a fait des allers-retours aux États-Unis, mais auparavant. Hein, on est plus dans les années 60, 50-60, de même que lorsqu'il va en Angleterre, c'est les années 40. Hein, dans les années 70, il est déjà presque au bord de la retraite. Il faut imaginer qu'il meurt à 103 ans, et c'était aussi, l'année dernière. Hein, donc je pense qu'il n'est plus du tout dans une activité professionnelle.
D'ailleurs, on lui avait reproché, je crois, certains voyages aux États-Unis où il avait rencontré, je ne me rappelle plus quel président, mais...
Est-ce qu'il a écrit du théâtre?
Alors, il a écrit plusieurs choses, oui, et il a aussi, il y a tout un versant de l'œuvre qui est un versant iconographique, et ce côté iconographique a été important pour la reconnaissance aussi du poète, parce que ça joue, c'est le côté ludique. Hein, ce côté iconographique a une partie extrêmement ludique. Patrick, tu voulais que l'on parle un tout petit peu des artefacts.
Oui.
Et il y a des choses qui sont assez simples. Par exemple, je pense. Alors évidemment, à la radio, ça passe pas forcément bien. Hein,
c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir le 22 février.
Voilà, il faut aller les voir le 22 février parce qu'on les projettera et donc on les verra. Mais bon, il y en a une qui est quand même assez anarchique. Artefact qui est quand même assez facile à visualiser, même lorsqu'on ne l'a pas sous les yeux. Et c'est une bouteille d'une boisson que l'on condamne bien sous le nom de Coca-Cola. C'est une bouteille pleine de Coca-Cola et sur laquelle, devant laquelle est posé un petit écriteau sur lequel on peut lire « Message dans une bouteille ». hein, message dans une bouteille. Et non seulement, alors il y a toute l'ironie effectivement de cette Coca-Cola qui au Chili à cette époque-là voilà, dit quand même le grand ennemi, hein, dit l'anti-impérialisme, et puis en même temps voilà, c'est aussi la reconnaissance de l'importance de ce Coca-Cola pour en tant que vecteur idéologique qui effectivement ce Coca-Cola véhicule bien un message sur une bouteille. Hein, donc ça, c'est très simple, ce sont des dispositifs à la fois de construction de l'objet et de lecture du dispositif, extrêmement simple et surtout extrêmement efficace.
On vous écoute.
Alors, peut-être on peut lire un extrait de ce que le défunt a dit de lui-même, puisque finalement le mieux c'est de le laisser parler pour voir ce qu'il pensait de lui-même. Je ne vais peut-être pas lire tout le texte parce qu'il est un peu long, dire un petit peu le début et la fin que je trouve assez intéressant. Alors, je suis très heureux de profiter de cette merveilleuse occasion que m'offre la science de la mort pour énoncer quelques clartés sur mes aventures sur Terre. Plus tard, lorsque j'aurai le temps, je parlerai de la vie d'outre-temps. Ce que je veux, c'est rire un peu, comme je l'ai fait de mon vivant. Le savoir et le rire se confondent. Quand je suis né, ma mère m'a demandé qu'est-ce que je vais faire de ce pétard. Je me suis consacré à remplir des sacs de farine. Je me suis consacré à casser des vitres. Je me cachais derrière les rosiers. J'ai débuté comme garçon de bureau, mais les documents commerciaux me donnaient la chair de poule. Mon pire ennemi fut le téléphone. J'ai eu deux ou trois enfants naturels. Un avocaillon de tous les diables me reprocha avec fureur le crime d'abandonner ma première épouse. Il m'a demandé « Pourquoi tu l'as abandonnée ?» Et j'ai répondu d'un coup sur le pupitre « Cette femme s'est abandonnée d'elle-même. » J'ai failli devenir fou. Et donc la fin de ce texte, donc... se passe un petit peu à la fin de ses funérailles. Donc les funérailles ont été très jolies. J'ai trouvé le cercueil parfait. Quoique je ne sois pas un cheval de course, merci pour les couronnes, elles étaient si jolies. Mais ne riez pas devant ma tombe, parce que je peux faire péter le cercueil et en jaillir comme une fusée.
On voit aussi le ton, ce ton à la fois sarcastique, mais bon, dans lequel il y a quand même un humour toujours...
Et une présence et constante de la mort.
Oui.
Je crois dans tous les textes, oui. Sans même les avoir choisis, le cercueil est là, oui. Sans arrêt.
Oui. Bon, je dirais presque que c'est un peu dans la tradition quand même...
Des calaveras. Oui. Et puis une tradition qui vient du Moyen-Âge. Oui. Il y a quelque chose de médiéval dans cette... Même chez Nicanor, effectivement.
Alors on va finir, si vous voulez bien, sur un texte, mais j'avais là une phrase de Cocteau qui dit « Le drame des poètes est qu'ils doivent vivre très au-dessus des moyens de leur époque. » Et je me dis, c'est exactement ce qu'il a vécu, lui. Hein ? Il a dû vivre avec très au-dessus des moyens de son époque.
En tout cas, il a fait feu de tout bois par rapport aux moyens que lui donnait son époque. Je pense que là,
il était très en avance quand même.
Oui. On peut le dire de cette façon-là. Oui. Et dans l'écriture de la poésie, c'est évident qu'il est un des points de départ de notre poésie contemporaine, extrême contemporaine. C'est-à-dire, elle ne dépareille pas. La poésie de Nicanor Parra ne dépareille pas au début du XXIe siècle.
Ça pourrait être des textes de slam. Hein.
Absolument, oui.
On pourrait le traiter.
Ce qui est intéressant, juste peut-être avant le texte, c'est une formule là, que j'ai lue en creusant un petit peu à son sujet. Une banderole qui est apposée devant l'université du Chili, actuellement, donc enfin, je pense il y a peu de temps, et qui rappelait un vers de Parra qui dit « Ne cessez jamais d'être ce que vous êtes, une puce dans l'oreille du Minotaure ». Donc cet aspect de provocation... finalement est resté, et au Chili il est vraiment, comme tu le disais, quelqu'un de tout à fait reconnu. Et
peut-être juste pour finir avec quelques tout petits vers d'un poème qui s'intitule Autoportrait. Pourtant j'ai été comme vous, jeune, plein de beaux idéaux. J'ai rêvé que je fondais le cuivre et limais les têtes du diamant. Et aujourd'hui, vous m'avez là, derrière ce bureau inconfortable, abruti par la ritournelle des 500 heures hebdomadaires.
Merci beaucoup. On rappelle l'événement, donc vendredi 22 février à quelle heure ? 20h30, dans la maison de l'Occitanie, 50 poèmes pour la neige. Vous aurez le plaisir de voir dans les artefacts.
Oui.
Nicanor Parra. Et puis le lendemain, si vous voulez bien, le samedi 16 février à 15h30, il y a une rencontre en chemin avec Antonio Machado au centre Joe Bousquet de Carcassonne, qui certainement est très intéressante.
Je vois 80 ans.
80 ans,
après
voilà.
La mort du poète,
après la mort du poète. On arrive à cette époque de commémoration de la Retirada. Antonio Machado, mort à Collioure en 1939. Donc, encore une fois, une très grande animation du centre Joe Bousquet de Carcassonne. Merci beaucoup à vous trois. Et
merci,
à très bientôt.
Merci.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.